Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes aujourd'hui en direct depuis le RACO, théâtre du MQC, Malévo Quartier Culturel, où nous avons l'honneur d'accueillir un représentant de l'AVEP, Elvio Parchet, l'association valaisanne d'entraide psychiatrique, une structure qui offre un espace d'écoute, de partage et de soutien pour les personnes vivant avec des troubles psychiques, mais aussi pour leurs proches. Et nous accueillons également au micro de Pavillon Nomade des étudiants de la HESSO, Haute École de l'École Supérieure de Travail Social, avec qui nous ferons plus ample connaissance dans la deuxième partie d'émission. Sans oublier nos participants du jour, on a aujourd'hui Sia, Agron, Christine, on a Raphaël, on a Luna, on a Faustine et on a Elvio. Bonjour à vous, restez avec nous, c'est une émission riche, humaine et inspirante qui vous attend. Bonjour Elvio Parchet.
Mais bonjour Jimmy, au plaisir d'être de l'autre côté du micro.
Oui, merci d'être présent aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est vrai que ça me fait bizarre de vous voir aujourd'hui avec nous de l'autre côté de la barrière. On pourrait dire, on dit souvent ça, de l'autre côté de la barrière, mais c'est de l'autre côté du micro.
Oui, oui, exactement. Comme étant co-animateur, aujourd'hui je suis venu représenter l'AVEP.
Alors, partons à la découverte de l'AVEP. Pouvez-vous nous présenter l'AVEP en quelques mots et ce qui la rend si unique dans le paysage valaisan et puis votre rôle au sein de l'association?
Alors écoutez, l'AVEP a été créée en 2005 dans les quartiers de Malévo, à la Maison Blanche que l'on appelle. C'est des personnes en souffrance psychique, c'est des personnes aussi, des proches qui se sont engagés en fait pour créer cette structure d'accompagnement lorsque les patients sortent de l'hôpital. Pour qu'il y ait une structure qui les accueille, en proposant en fait divers ateliers. Donc à la genèse, il y avait des cours d'informatique, il y avait des séjours à l'étranger, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et au fur et à mesure du temps, avec aussi les lois qui se sont établies au niveau des assurances et tout, l'AVEP s'est concentré sur une structure et une association qui cible vraiment l'accompagnement par pair animateur. Je peux vous expliquer ce que c'est les pair animateurs?
Oui, je vous en prie.
Donc les pair animateurs sont des patients en souffrance psychique qui sont devenus d'abord membres et qui se sont engagés par leur connaissance acquise lors de leur vie à proposer des ateliers, des cours, parce qu'il existe une formule atelier, par exemple les ateliers créatifs, mais il existe aussi la formule cours de cuisine, cours de pâtisserie, etc. etc. Il existe, maintenant elle est en latence, pour l'instant d'ailleurs, on demande volontiers aux proches de reprendre contact avec l'AVEP parce qu'il y a le fil d'Ariane qui existait et on aimerait qu'il réexiste toujours, mais il est en latence. Nous avons aussi les soirées ESIPSI où des intervenants extérieurs comme des médecins, des psychologues, des psychiatres, des pères aidants viennent témoigner en fait sur des thèmes qui sont choisis au sein de l'AVEP par les membres. L'AVEP, c'est également les membres qui, eux, choisissent par quadrimestre leurs besoins, leurs envies, qui proposent des ateliers, qui se proposent aussi à devenir des nouveaux pères animateurs, des pères aidants. Et elle est en constante mutation. L'AVEP aussi, c'est se soucier des membres. C'est leur téléphoner pour s'il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'ils ne viennent pas, savoir où ils en sont. Donc il y a vraiment aussi cette idée de suivi, d'accueil et de suivi individuel.
D'ailleurs, ça me fait penser à cette question. Déjà, en premier, quand on dit l'AVEP autour de la table, est-ce que ça vous parle? Levez juste la main de savoir qui connaît l'association de l'AVEP autour de la table. On a... trois personnes autour de la table et on a un public fantastique aujourd'hui. Hein. Vous êtes venus ensemble aujourd'hui à l'école, la haute école sociale. Est-ce que quand je dis AVEP, ça résonne en vous ou pas? Est-ce qu'il y a des gens? Levez la main juste pour faire un petit sondage comme ça. On a ouais, peut-être à peu près 10-15 personnes qui connaissent. Bah, c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a encore peut-être pas encore assez de vecteurs qui parlent de l'AVEP, mais à quoi, comment se passe un premier contact pour quelqu'un qui arrive à l'association? Parce que j'imagine que les gens vont sur Internet, mais concrètement, à quoi ils peuvent s'attendre quand ils poussent la porte pour la première fois? Est-ce qu'ils téléphonent? Est-ce qu'ils tapent à la porte? Ils voient de la lumière? Comment ça se passe?
Alors j'aimerais juste réagir à quelque chose, parce que maintenant ça va faire 4 ans que je fais partie de cet organisme. Et quand on allait, parce que j'étais commandité aussi directement, étant à l'aise à aller présenter l'AVEP, la HES ou comme ça, il y avait bien moins des mains qui se levaient en disant « on connaît, on sait ce que c'est ». Et en 4 ans, il y a eu une belle progression, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de mains qui se sont levées. Et en fait, à la base, de notre côté, on va présenter l'association maintenant dans divers... on vient à Malévaux, on va au service de la santé valaisanne, on va à la HES. En fait, on s'implique maintenant, les pères aidants, les pères animateurs, les animatrices... La coordinatrice a aussi, elle est dans les médias. Nous sommes allés à la RTS avec Jean-Marc Richard. Nous sommes allés à Radio Chablais. Donc, en fait, à la base, de notre côté, en tout cas, nous essayons de nous faire connaître en touchant un large public. Ensuite, depuis, en tout cas, personnellement, que je suis en collaboration, en formation et en collaboration avec le quartier culturel et l'hôpital, je me permets aussi, parce qu'on a un panneau d'affichage avec des solutions pour l'extérieur, pour pas se sentir seul et puis tout de suite être accompagné. Et là, nous avons, je fais la promotion. Que lorsqu'ils vont sortir, que s'ils ont besoin de venir faire des cafés rencontres, déjà pour s'impliquer, il y a la possibilité de pouvoir venir nous trouver. Nous sommes à Monté, à l'avenue du Simplon 28, B. Et les vendredis de 9h à 17h l'après-midi, juste une pause à midi pour les animateurs. Il y a des rencontres, il y a des cafés. Les lundis, j'organise avec une des animatrices des randonnées. Et les mardis, on se relaye. Et par exemple, moi, je donne des cours de cuisine. Et on essaie de jouer beaucoup sur le bouche à oreille aussi. Ça fonctionne très bien, le bouche à oreille, parce que souvent... une personne qui vient parce qu'elle elle a une souffrance, généralement elle s'entoure avec d'autres pères, naturellement, même à l'extérieur, et en leur expliquant qu'il existe, en expliquant qu'il existe cette structure, ils nous amènent des nouvelles personnes à qui on fait connaître nos activités.
Mais je trouve ça formidable. Alors, Christine, vous avez une question à poser. On va vous donner un micro, si vous pouvez seulement passer le micro. Bonjour, Christine.
Bonjour. J'espère que j'ai tout bien compris, mais je me demandais si une personne est adepte de l'AVEP, si elle a le droit, par exemple, de prendre sa fille avec pour venir faire de la pâtisserie.
Alors voilà, ça, c'était une grande question ces dernières années. Les chiens sont admis, je veux dire ça comme ça, d'une manière humoristique, mais malheureusement, les enfants qui sont...
Non, pas des petits-enfants, des grands-enfants.
Alors, il faut que les enfants, ils soient majeurs. Et là, justement,
on vient de découvrir à ma quatrième enfant qu'elle avait de l'autisme léger.
Oui.
J'apprécie pas du tout ce diagnostic, parce qu'elle n'avait rien jusqu'à maintenant.
Oui.
Et elle cherche de l'aide.
Alors, il faut l'accompagner une fois.
En parlant d'aide, parce que c'est une question qui est assez importante, et c'est une question que j'aimerais poser d'ailleurs à tous nos participants aujourd'hui. Selon vous, pourquoi est-il si difficile pour beaucoup de personnes de demander de l'aide? Parce que finalement, on a une association qui se veut d'aider, et qu'est-ce qui fait qu'on ait de la difficulté à demander de l'aide?
Parce que la psychiatrie est toujours mal vue.
Christine, psychiatrie mal vue. D'autres points de vue? Agron, bonjour Agron.
Bonjour. Je dirais que de toute façon, bien sûr, la psychiatrie, c'est une branche du réseau Santé Valais pour la psychie. Je pense que qu'il y a des gens sensibles, plus sensibles que d'autres, qu'il y a différentes raisons, qu'on est tous dans le même bateau. Il y a des gens qui sont malades, qui travaillent sans traitement. J'ai des idées aussi qu'il y a des gens qui travaillent avec des traitements, qu'on peut se procurer en libre service en pharmacie. Il y a même des gens qui travaillent avec des neuroleptiques, donc pour les troubles psychiques, qui sont donc traités avec un diagnostic et qui travaillent. Et il y a des gens qui sont en assurance et donc demander de l'aide, en fait. Ça peut être dur, penser un peu les causes et conséquences que ça pourrait avoir si on se fait des idées, on se fait des films, on se dit que ça va être la catastrophe, mais quand on a un handicap, et c'est là aujourd'hui, ce début de la troisième décennie 2025, qu'on se dit avec les outils qu'on a aujourd'hui c'est mieux, mais je veux dire, il y a des malades, dans tous un peu dans le même bateau, des malades demandent de l'aide, c'est peut-être dur, mais aujourd'hui on traite le handicap, on traite pas les originaux. Voilà, pour finir sur un peu aussi sur une touche d'humour.
Merci Agon de votre point de vue. Sia, j'ai vu que vous avez pris le micro. Selon vous, pourquoi c'est si difficile d'aller demander de l'aide?
En fait, quand tu as trop de problèmes dans la vie, en fait, ton cerveau, il s'épuise. Et puis quand tu demandes l'aide, ça prend énormément d'énergie. Vu que tu n'as pas assez d'énergie dans le cerveau, tu ne peux pas encore demander plus d'énergie. Quoi. C'est ça.
Merci. Et puis, à nos étudiants qui sont là aujourd'hui, on va donner le micro à Faustine. Bonjour Faustine.
Je pense que c'est peut-être difficile de demander de l'aide parce que malgré l'ouverture quant au thème de la santé mentale, il y a quand même beaucoup de stigmatisation encore. Donc, à mon avis, c'est...
Ouais, alors je vois Luna, vous hochez de la tête. Que veut dire ce hochement de la tête? Est-ce que vous partagez les mêmes propos? Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, d'autres points de vue?
Non, alors moi je rejoins les propos de Faustine. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de ce sujet et ça peut être compliqué d'avoir un diagnostic et de l'assumer.
Voilà. Ok, merci. Raphaël, on prenait seulement le micro, on vous écoute. Bonjour Raphaël.
Bonjour. Alors oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il reste quand même beaucoup de stigmatisation vis-à-vis des personnes pouvant avoir un handicap ou un trouble psychique, quel qu'il soit. Et aussi le fait de s'avouer, entre guillemets, atteint, ça peut parfois être vu comme une honte pour certaines personnes, donc une honte difficile à porter. Et à avouer, en fait, à aller vers les gens pour dire « Ah, j'ai ce problème-là », c'est, je pense, un peu comme certains problèmes d'alcoolisme. Ça peut être considéré comme une honte et comme une difficulté supplémentaire.
Merci. D'ailleurs, tout à l'heure, Elvio Parché, vous avez parlé dans votre présentation de ce point central qui sont les pères aidants. Pourquoi l'entraide entre pères est-elle si centrale dans votre philosophie, hein, par rapport à la VEP, et qu'apporte-t-elle de plus que les dispositifs professionnels classiques?
Alors déjà, tout simplement parce qu'on part déjà dans la direction de la déstigmatisation, justement. Les personnes qui viennent pour la première fois se présenter à la VEP, on les invite à venir justement à Sion le mercredi matin pour le café rencontre et les vendredis matin pour le café rencontre plutôt sur le Chablais et le Bas-Valais. Et ce qui est important à dire, c'est qu'avec ces personnes, avec les personnes qui sont déjà depuis plusieurs années, on parle de notre manière de fonctionner et on établit et souvent on reprend aussi des idées d'autres, en fait, des nouveaux arrivants, et on crée une charte, en fait. Je peux dire par exemple confidentialité, conseil, rendez-vous libre, entraide, bienveillance, jeu, échange, convivialité, contact social. Et en les intégrant, en fait, dans notre association, on leur permet aussi de se rendre compte qu'on prend soin aussi de leur bien-être personnel et qu'ils se sentent pas abandonnés, qu'ils peuvent venir quand ils veulent et qu'il y a une structure qui les met justement non seulement en valeur, mais en confiance et en sécurité.
Ah ben merci de votre réponse. D'ailleurs, moi, ça fait quelques années que je travaille aussi à l'hôpital ici à Malévo, et j'ai connu l'AVEP au départ, qui était quand même quelque chose de très cloisonné, de très, on pourrait dire, presque chasse gardée, et de devoir mettre un infirmier venir dans la structure, c'était déjà compliqué. Mais avec quel partenaire travaillez-vous? Est-ce que vous avez des synergies avec les hôpitaux aujourd'hui, les structures sociales, les communes ou les acteurs culturels?
Alors, il y a les animatrices qui viennent souvent faire un échange ici au quartier culturel, je pense une fois par année, pour parler des nouveautés et de ce qu'on fait. On se présente aussi dans divers marchés, les marchés de Noël. On s'est présenté cette année, on était à la Foire du Valais. Et on cherche des partenaires, mais on a la chance aussi de faire partie de la CORASP. C'est la fêtière des associations d'entraide psychiatrie de Romandie. Et grâce à cette fêtière, on s'implique aussi dans divers mouvements. La journée de la santé, cette année on a été dans la médiathèque à Sion aussi, présenter une bibliothèque vivante. Donc il y a vraiment un engagement qui s'élargit de plus en plus, avec des partenaires aussi, des partenaires qui sont de plus en plus présents. Parce que malgré tout, c'est difficile d'évoluer. C'est pour ça que je dis à tous les étudiants qui sont présents, à tout le monde, ouais, et ce serait vraiment bien que justement on travaille tous en collaboration et que par exemple pour les assistants sociaux, en fait, fassent vraiment la promotion de cette institution, de cette association qui permet vraiment une rechute, qui permet vraiment d'éviter une réhospitalisation. Et vu qu'aujourd'hui je suis pas là en ma fonction de père praticien, je vais expliquer quand même que par mon expérience d'avoir intégré comme membre et ensuite de père animateur, ça m'a amené à être engagé aussi ici et à faire la formation de père praticien en santé mentale à la Haute École Sociale à Lausanne. Ouais. Donc en fait, c'est là qu'on voit l'importance de la communication.
Ouais, d'ailleurs, ça a bien évolué effectivement, parce que depuis quelques années, on reçoit ici, dans chaque unité, les activités annuelles et par mois qui sont affichées pour que les bénéficiaires en soins puissent y participer. Je vous propose qu'on fasse un petit stop musical. On se retrouve après le titre de Jérusalem, excusez-moi, de Master KJ. Hey.
oyame, ai kolana, buso ame, au kolana. Kilo no lo sé, su hambre na me. Ya oyame, ai kolana, buso ame, au kolana. Kilo no lo sé.
Retour en direct sur les ondes de Pavillon Nomade. Merci Elvio Parchet d'être avec nous pour nous faire découvrir l'AVEP, une association qui joue un rôle majeur en Valais depuis des années. D'ailleurs, on a parlé des proches. Vous soutenez aussi les proches. En quoi leurs besoins diffèrent-ils et comment les accompagnez-vous concrètement?
Alors, vu que, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, le fil d'Ariane est en latence, on a peu de proches qui sont présents, mais les proches en fait sont invités à participer aux ateliers, à proposer des solutions, à venir aussi dans des conseils aux animateurs, aux animatrices et animateurs, pour justement l'attitude à avoir, comment puis-je faire avec un enfant ou même enfin voilà, généralement ça touche la population adulte. Et malheureusement, c'est vrai qu'au fil des années, maintenant, il nous reste 3 proches, par exemple. Donc, mais les proches participent activement aussi par leur expérience de plusieurs années, car le doyen des proches a passé 70 ans et il est là depuis 20 ans. Et il s'engage directement, en fait, auprès aussi des gens, à l'écoute, à proposer. C'est une personne en fait qui travaillait dans les jardins, donc en fait il donne des conseils, il demande aux autres de participer. Donc en fait c'est de cette manière en fait que les proches peuvent participer.
Alors est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Je vois Christine, vous prenez le micro, on vous
ben
écoute.
Oui, moi j'ai passé 30 ans de ma vie, comme on dirait, normal, avec des hauts et des bas, avec beaucoup d'argent, avec moins d'argent, mais une belle vie. Et à 30 ans, tout à coup, avec mon divorce, j'ai fait foncer dans la psychiatrie d'un coup. Donc j'ai passé maintenant 30 ans dans la psychiatrie. Là, au premier rendez-vous que j'ai eu avec mon psy, que j'ai actuellement, il m'a dit, écoutez, vous avez plus d'expérience que moi, vous allez m'enseigner. Et puis avec les jeunes adolescents qui vont se suicider aussi, parce que je ne sais pas quoi faire avec eux.
Alors ça, c'est important ce que vous dites. C'était aussi une question qui m'interpelle, parce qu'on a parlé des proches. Les jeunes sont de plus en plus touchés par des problématiques psychiques. Oui. Est-ce que l'AVEP, vous menez des engagements auprès d'eux ou pas?
Alors l'AVEP s'engage que pour les personnes adultes.
Voilà. Ma fille a 21 ans, elle est à l'université et ils disent qu'elle est autiste. Elle est à l'université en droit international, elle a réuni une 6 et 3 premières années. Moi, ça m'a fait un peu sourire parce qu'elle fait la fête avec tout le monde. Elle est tout à fait joyeuse, elle est tout à fait bien. Mais il fallait quand même qu'ils nous cassent le 4e enfant dans la psychiatrie parce que sinon, ça n'allait pas en Valais.
Merci Christine. Vous avez parlé tout à l'heure d'activités. Quelles sont les activités au groupe de parole qui rencontrent le plus de succès aujourd'hui? J'imagine que vous devez avoir un listing des activités qui sont proposées. Est-ce qu'il y a des activités phares comme ça qui font vraiment un émule auprès des bénéficiaires de la VEP?
Alors j'aimerais déjà commencer par dire que la nouvelle personne qui arrive au sein de la VEP est accueilli par les animatrices socioculturelles. Elles leur font visiter donc l'établissement. Là, on a une jolie maison, c'est très cosy, c'est très familial. Ensuite, elle leur démontre en fait par aussi des micro-vidéos de les activités qu'on propose. Suite à ça, les gens qui décident de venir participer à des ateliers, en fait, il y a vraiment les ateliers créatifs qui sont vraiment donnés par des membres et des pères animateurs, qui fonctionnent très très bien. Il y a la méditation et le yoga qui est proposé par une des animatrices qui justement a fait, et en cours de formation, il y a les repas partage. On va chaque année aussi faire un atelier vitrail ici à l'école de vitrail de Monté, et ça a énormément de succès. On a chaque année, justement, alors là, je vais toucher justement la HETS, parce qu'il y a un atelier créatif et un projet artistique de danse et de théâtre avec quelqu'un de très réputé en haut, et qui nous permet de faire une création en fait sur 4 jours. Et après, cette création, elle est présentée à l'école. Et il y a deux séjours participatifs très importants qui ont énormément de succès. C'est les 3 jours de yoga et de détente à Vercorin. En septembre, c'est la randonnée de 3 jours entre différentes cabanes. L'année passée, c'était Demecre et La Tourche. Et on faisait cette marche sur 3 jours pour dépasser les limites et puis solidariser le groupe.
Ben merci Elvio. D'ailleurs, l'AVEP fait ses portes ouvertes aujourd'hui même et nous écoute en direct également depuis leurs locaux. On les salue et les remercie pour l'aide qu'ils apportent. Quel message veut passer l'association avec cet événement ?
Alors déjà que ça fait 20 ans qu'elle est là. Donc c'est très important de dire que cette association fête ses 20 ans cette année et qu'elle a beaucoup de choses encore à proposer, et surtout qu'elle a encore besoin de se faire connaître. Et dès aujourd'hui, donc, il y avait à 14h donc, l'accueil, les ateliers animation, donc présentation avec les divers pairs animateurs. Il y a une bibliothèque vivante qui a été présentée, comme je vous ai dit, pour la journée de la santé à la médiathèque à Sion. Les visites des locaux. On a créé aussi, avec certains membres très actifs, un troc où les gens, dans le besoin, peuvent venir faire des échanges, ou même des gens qui ont des surplus nous amènent du matériel, des habits, des services, des appareils ménagers et tout ça. Il y aura des témoignages aujourd'hui également, boissons, collations. Puis à partir de 17h, si vous avez le temps, venez, il y a la partie officielle. Et là, vous allez vraiment découvrir l'importance de la VEP et puis ce que la VEP amène vraiment de mois en mois et d'année en année à notre canton, sachant que on n'est pas obligé d'être valaisan ou de faire partie du canton du Valais pour faire partie de la VEP. On peut venir du Jura, il n'y a aucun problème.
Merci. Ben alors, qui dit porte ouverte, dit ouverture jusqu'à quelle heure ? Parce que vous avez dit à partir de 17h, mais peut-être qu'à la fin de cette émission, ceux qui nous écoutent, ou même des participants d'aujourd'hui, s'ils ont envie de s'y rendre, ils ont la possibilité d'y aller jusqu'à quelle heure ? À quelle heure ça se termine ?
Ça se termine à 19h. Voilà. Et je vous donne l'adresse. C'est l'avenue du Saplon, 24B à Monté. C'est à côté, en fait, du stade Poitiers, je crois. C'est ça.
Oui. Voilà. Donc, si vous avez, après vos courses, après le travail, ou après même cette émission, envie d'aller soutenir l'association, bah, vous y rendez et puis vous profitez de ces journées portes ouvertes. Christine.
Oui, je voulais dire que moi, au départ, je me suis mélangé les pinceaux. Je croyais que la VEP, c'était l'association valaisanne des anciens toxicomanes, là, ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais été me présenter là-bas, et parce que j'avais des problèmes de cocaïne. Et le gars m'a répondu, oh, mais si c'est festif que le week-end, c'est pas bien grave. Je suis sortie de là, j'ai dit, tu changes de métier, mec, autrement, je te dénonce à l'État.
Alors, merci pour votre anecdote. Peut-être aussi que c'était quelque chose un petit peu de l'autodérision ou paradoxal dans cette réponse-là. En tout cas, on ne va pas le juger aujourd'hui. Quels sont vos futurs projets de développement que vous préparez pour les mois à venir ou les années à venir ? Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses qui se sont déjà créées sur ces dernières années. Est-ce que comme ça, il y a un petit teasing de quelque chose de derrière les fagots?
Alors, on vient d'avoir la semaine dernière rencontre de pères animateurs. Alors, sachant que l'AVEP est là grâce par et pour ses membres, en fait, c'est nous avons donc, comme je vous ai dit, nos séjours, voilà, yoga, rando, mais sinon, en fait, dès qu'il y a des nouveaux participants qui viennent, des nouveaux membres, en fait, c'est eux qui vont faire vivre les nouveautés. Donc, en fait, nous avons les ateliers repas partage, nous avons les ateliers créatifs qui sont là avec les membres actuels. Mais comme c'est un espace vivant, l'année prochaine, on aura certainement de nouvelles demandes et des gens avec de nouvelles qualités qui vont nous permettre encore de nous développer.
Ben merci. Alors, quelqu'un aurait une question encore ?
Non, pas une question.
Agron, on vous écoute.
Oui, donc l'AVEP, l'association Valaisanne d'entraide psychiatrique, c'est un outil parmi tant d'autres de la santé psychique, du réseau santé Valais à tous les niveaux, somatique, psychique, etc. L'AVEP, c'est un outil parmi d'autres. Je souhaiterais, pour ma part, d'abord, avant de poser ma question, dire qu'il y a tout un tas d'outils comme déjà la consultation chez le docteur, donc le diagnostic qui peut changer, des progrès, la confiance. Il y a le social. Nous avons des personnes qui travaillent dans le social dans la pièce. Donc l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'AVEP, c'est donc ma question, c'est est-ce que c'est avant le diagnostic, est-ce que c'est pour dédramatiser, pour que les proches dédramatisent un peu le mal qui ronge leur famille, pourriez-vous m'en dire un peu plus, Monsieur Elvio, sur
volontiers. L'AVEP s'engage en fait à accueillir tout le monde, parce que ça peut être aussi des personnes retraitées qui souffrent de solitude ou pas retraitées. Ça peut être des personnes qui sont en souffrance mais qui n'ont pas fait les démarches médicales. Donc c'est pas un lieu médicalisé. Donc nous ne sommes pas spécialisés dans l'accompagnement et le traitement psychiatrique, mais nous sommes là dans l'accompagnement, dans la déstigmatisation, et nous sommes là pour accueillir toute personne se sentant souffrante et ayant besoin d'avoir des personnes autour d'elle avec qui parler et être comprise. En fait, le mot d'ordre de l'AVEP, c'est la paire aidance, la paire animation, l'entraide, voilà.
Merci. Alors, on avait une dernière question de Karine ou une réaction. Alors, on va vous donner le micro.
Alors, moi, j'avais juste une réaction. Déjà, j'ai fait l'AVEP. Moi, je l'ai fait à Sion. On reçoit ensuite un programme à la maison sur 3-4 mois. On peut s'inscrire à différents ateliers qui nous intéressent. Donc, il n'y a pas d'obligation à aller tous les lundis ou tous les mardis. Enfin, voilà, vous décidez quand vous souhaitez y aller. Il y a parfois des participations financières qui sont demandées, mais qui sont très peu chères. Style, il y avait des soirées bowling avec deux parties de bowling et pizza, puis c'était payé 11 francs. En fait, le bus organisait le personnel et venait chercher les patients pour faire ce type de soirée. Où on avait aussi des après-midi à Enigma, où on devait juste consommer en fait un sirop. Et il y a plein de jeux de société, et il y a un monsieur qui vient vous expliquer les jeux de société à faire. Donc, il faut aussi profiter de ça.
Ben, merci à vous, merci Elvio Parchet pour votre présence et pour la clarté de vos réponses. L'AVEP rappelle que personne ne devrait affronter la souffrance psychique seule. Il existe des lieux, des personnes, des ressources et surtout une communauté prête à écouter et accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus ou participer à une activité ou simplement trouver une oreille bienveillante, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'association www.avep-vs.ch. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission avec les étudiants de la HSSO. Merci Elvio encore.
Et je vous remercie et je souhaite une bonne suite d'émissions à tout le monde et aux étudiants. Merci de m'avoir accueilli, Jim.
Et la vie, c'est la vie. Donc, Life is Life de Opus. De retour en direct après ce super morceau de Opus. Il est exactement 16h05. Merci aux étudiants, de la Haute École de Travail Social qui sont réunis autour de nos micros et qui ont accepté de se prêter au jeu, car je vois que vous êtes venus en grand nombre. Nous allons nous plonger avec vous au cœur de votre parcours, de vos stages et surtout de votre expérience. Mais pour délier un peu plus les langues, je vous propose un petit quiz vrai-faux pour se mettre en forme. Alors attention, c'est parti. CIAR, les éducateurs sociaux passent 90% de leur temps à organiser des activités et 10% à boire le café. Vrai ou faux?
J'ai pas compris, mais faux.
Alors, faux, c'est plutôt l'inverse. Non, je plaisante. Le travail est bien plus varié, relationnel, éducatif, administratif, et oui, des fois, café. À Grenne, les assistants sociaux AS connaissent par cœur toutes les lois, règlements, dispositifs et sigles des cantons. Vrai ou faux?
Je pense que c'est faux parce qu'ils sont pas dans le civisme, ils sont dans le social.
Alors faux, ils connaissent pas tout, mais ils savent chercher vite, très vite, plus vite que vous quand on vous annonce un audit surprise. Attention Christine, c'est à vous. Travailler en interprofessionnalité, c'est simple. Tout le monde a la même vision et les mêmes propriétés.
C'est juste.
Eh ben non, c'est faux. Si c'est vrai, les ateliers ne durent pas la journée, mais 5 minutes. Attention Raphaël, dans le travail social, une journée sans imprévu n'est pas une vraie journée.
C'est vrai.
C'est vrai, vous avez raison. Si tout se déroule comme prévu, c'est qu'on est en vacances, tout simplement. Attention Luna, c'est à vous. Tout le monde peut vivre un trouble psychique, même les travailleurs sociaux.
C'est vrai.
C'est vrai. Personne n'est immunisé, même les pros qui savent gérer les émotions, sauf en examen final, quoique encore, ça reste à voir. Et on a Gabriel qui nous a rejoint autour de la table. Bonjour Gabriel Binder.
Bonjour Jimmy.
Ça fait plaisir de vous avoir autour et au micro. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger entre nous.
Ça fait un moment, je profite de cette journée pour rejoindre la table.
Merci. Alors attention, c'est à vous. La santé mentale, c'est seulement l'absence de la maladie.
Non, la santé, c'est un état de bien-être. Donc, entre la maladie et la santé, il y a plein d'étapes.
Vous avez raison, c'est faux. La santé mentale, c'est aussi la capacité à gérer ses émotions, ses relations et ses stress, et parfois à suivre à une réunion trop longue. C'est vrai, on peut le voir aussi comme ça. Alors, attention, on a la dernière question pour Faustine. Faustine, demander de l'aide est un signe de faiblesse.
C'est faux.
C'est faux, c'est souvent un signe d'intelligence et parfois un signe que le café n'était pas vraiment assez fort aujourd'hui. Voilà, merci, j'espère que vous avez apprécié ce petit ton humoristique. Bonjour à Raphaël, bonjour à Luna et bonjour à Faustine et rebonjour à Gabriel.
D'ailleurs, une petite étude vient de montrer que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à demander de l'aide, notamment lorsqu'ils sont en souffrance psychique, ce qui fait qu'ils coûtent beaucoup plus cher à la santé parce qu'ils attendent beaucoup trop longtemps. Et ils attendent le dernier moment, donc ils occupent les structures. Tandis que les femmes ont la capacité à demander de l'aide, donc elles agissent dans la prévention.
Ouais, ben c'est bien de le rappeler, on en apprend tous les jours, vous voyez, il y a même un pavillon nomade, on apprend plein de choses. Raphaël, Luna et Faustine, vous êtes des étudiants en formation d'éducateur social, d'assistant social, d'animateur socioculturel. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi ça consiste?
Raphaël, l'animation socioculturelle.
Présenter l'animation socioculturelle?
Oui, en quelques mots, en quoi ça consiste?
Oui, alors c'est l'animation socioculturelle, c'est rassembler les personnes de la société. Ça peut être différents publics très spécifiques ou... En fait, c'est toutes sortes de publics possibles autour d'une animation particulière. C'est par exemple le quartier culturel de Malévaux qui a pour but de rassembler l'hôpital à la société de Mantet plus précisément. C'est un exemple d'animation socioculturelle.
Eh ben merci. Luna, bonjour.
Alors, bonjour. Mon rôle en tant qu'éducatrice sociale en formation, c'est d'accompagner des personnes qui ont des difficultés dans leur quotidien, de les soutenir, de les écouter et de leur offrir un cadre bienveillant où ils se sentent soutenus et écoutés.
Merci. Et Faustine?
Alors, le rôle de l'assistant social est plus un espace d'écoute. Le travail se situe plus au niveau administratif, de médiation et aussi d'information quant aux droits sociaux, et quant à la situation sociale en général.
Ah ben merci pour cet éclairage. Ma première question qui s'adresse à vous trois, mais peut-être aussi à Gabriel Binder, comment décririez-vous votre parcours avant d'arriver dans cette formation et surtout ce qui vous a donné envie d'étudier dans le domaine social ? Luna, on vous écoute.
On commence par Luna.
Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine du social parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir un contact avec l'humain et d'être en lien direct avec des personnes. Du coup, ça a été assez instinctif de diriger vers cette voie.
Vous êtes passé tout de suite de l'école à l'école travail social ?
Alors, j'ai fait l'école de culture générale, la maturité et après l'HES, oui.
Et puis pour les autres, comment vous êtes arrivé finalement dans votre parcours de vie à vouloir faire cette formation ?
Alors moi, c'est un peu particulier, c'est une réorientation professionnelle. J'étais éducatrice de l'enfance pendant des années. Et j'ai souhaité faire autre chose, avoir un peu plus de stimulation intellectuelle et personnelle, me poser des défis, et puis ça faisait sens de rester dans le travail social. Donc voilà pourquoi j'ai intégré l'HES.
Et pourquoi le service social alors que vous étiez éducatrice ?
Pour découvrir autre chose. Et voilà.
Vous avez vu que j'ai invité Gabriel pour les questions pièges. Hein. Raphaël.
Oui, alors moi, en fait, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis beaucoup cherché. Et après, j'avais fait le CG déjà, mais d'abord une maturité théâtre. Et après, j'ai fait par la suite une maturité sociale. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est l'été, avant de commencer la maturité théâtre, que j'ai découvert un peu cette vocation d'une certaine manière dans le travail social, puisque j'ai fait du bénévolat à l'hospice du Grand Saint-Bernard et on a accueilli un groupe d'enfants qui étaient venus. Et puis, ça m'a beaucoup plu de passer du temps avec ces enfants, de leur montrer l'hospice que je connaissais un peu du coup. Et c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben, je veux travailler tout d'abord avec les enfants. Mais en fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire un stage dans le travail social, puis la HES par la suite, j'ai aussi regardé un peu mes centres d'intérêt et tout, parce que moi, en fait, il faut savoir que ça fait très longtemps que je fais du théâtre. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est culturel et artistique. Et je me suis dit que la profession la plus proche de ses intérêts dans le travail social, c'était l'animation socioculturelle. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette filière.
Merci. On a Christine qui aimerait poser une question. Christine, on vous écoute.
Je vais juste finir pour vous dire que ma fille qui est en droit universitaire à l'Université de Genève a commencé par 4 ans de collège artistique. En une année, elle a rattrapé le droit, donc pour pouvoir entrer en droit international à Genève. Et maintenant, elle hésite. Elle m'a dit qu'il y a une nouvelle école, une nouvelle université qui va ouvrir en Valais les prochaines années pour faire justement une formation en sociaux, je ne sais pas quoi.
Eh ben, on lui souhaite en tout cas plein de bonheur pour la réussite pour ses études. D'ailleurs, quand on parle d'études et de formation, on parle de stage. Hein, vous avez parlé de bénévolat. Finalement, dans quel lieu vous avez fait vos stages et surtout, quelles missions vous ont plus marqué ou transformé ?
Raphaël.
Alors moi, j'ai effectué un stage tout d'abord en UAPE, c'est-à-dire avec des écoliers. C'est une structure d'accueil pour écoliers. Ensuite, j'ai fait une formation pratique à la Maison du Monde, donc pas les magasins de meubles, mais le bureau de l'intégration de Montais. Et puis, donc, laquelle m'a le plus marqué ? Eh bien, c'est assez difficile à dire, mais je dirais que en fait la Maison du Monde, ça m'a quand même beaucoup marqué parce que c'était beaucoup avec des personnes d'origine étrangère, et donc ça, c'est une population que j'avais encore jamais côtoyée auparavant, et j'ai trouvé très enrichissant aussi d'avoir un formateur qui était issu qui avait fait des études supérieures un peu en ethnologie et avec qui on avait plein de discussions intéressantes autour des cultures étrangères, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Par ailleurs, j'aimerais pour la suite continuer à faire des études universitaires en sciences sociales, donc c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué à ce niveau-là.
Maison du Monde, avec qui Paillon Nomade a collaboré pour deux émissions.
Oui.
Ah ben, je l'ignorais.
Oui, parce que nomade, ça veut dire qu'on se déplace, bien sûr. Hein, on est là aujourd'hui, on n'est on est pas dans notre studio, on est au RACO, au théâtre du MQC. Luna, pour vous.
Alors moi, j'ai effectué mon stage de maturité de 1 an au CPS de Sion, au sein d'une classe d'adaptation avec 6 élèves à handicap, et ma formation pratique 1 à la Fondation de Verdeil à Aigle, donc dans l'école La Chapelle, qui accueille également des élèves à handicap de 4 à 9 ans. Et je pense que les deux expériences ont été formatrices, mais vu que j'avais déjà plus de connaissances et d'expériences lors de ma FP1, bah, ça a été plus... Enfin, j'en ai plus appris parce qu'ils ont osé me donner plus de responsabilités et j'étais plus livrée à moi-même. Donc
les travailleurs sociaux, vous utilisez beaucoup de sigles. AFP, ça veut dire l'association Force, Force et Progrès, c'est le parti. C'est ce qui a marqué sur le drapeau brésilien, je crois, non ? Force et Progrès, AFP, non ?
Alors, AFP, c'était pour dire formation pratique, parce qu'on dit comme ça à l'HES. Mmh. Mais du coup, formation pratique, une.
Mais voilà. D'ailleurs, dans ces formations et dans ces stages, y a-t-il un défi auquel vous n'étiez pas attendu du tout ?
Alors, durant ma formation pratique 2, du coup, il y a eu certains défis dus au manque du personnel. Du coup, il y a quelques fois où je me suis retrouvée à devoir gérer des classes seules, alors que je n'ai ni les papiers, ni l'expérience pour. Mais je me suis surpassée, j'ai réussi et ça m'a donné confiance en moi. Et j'ai pu voir de quoi j'étais capable.
Là, vous rappelez, le journal des instituteurs valaisans s'appelle Éducateur. Donc là, vous êtes dans la pédagogie, dans ce que vous avez fait, là, vos stages.
Oui, mais en fait, c'est une école où il y a des éducateurs avec des enseignants spécialisés.
Mmh. Et votre quotidien, c'est dans la classe ou c'est dans le reste de la journée ?
Non, c'est dans la classe. On faisait le temps de classe, les récréations, les repas, journée. En fait.
Puis quelles informations sur ces enfants ? C'est quel type d'enfant alors ?
Alors, la plupart étaient atteints d'autisme. Et sinon, il y avait plein d'autres troubles psychiques ou... avec des retards, des difficultés. Il y avait tout plein de... Voilà.
Eh ben merci, Luna. Faustine.
Alors, ayant bénéficié d'une validation d'acquis, je n'ai pas fait de stage.
Quelle chance, ou pas, peut-être, voilà. Parce que les stages forment aussi.
Une expérience professionnelle dans la petite enfance d'un certain nombre d'années. Et ma formation pratique va se dérouler au Centre Suisse Immigration, dont la mission est de soutenir les personnes issues de l'immigration ou en demande d'asile dans leur démarche d'asile. Et ils organisent également des activités d'intégration.
Ils venaient d'où, ces migrants, du Centre Suisse Immigré ?
Alors, je n'ai pas commencé le stage, mais je
pense qu'il y en a un peu près. Vous allez là-haut, vous allez aller là-haut, excusez-moi. Ça va commencer quand, le stage ?
Le 2 février.
D'ailleurs, en parlant de stage, vous êtes dans un module sur l'interprofessionnalité. Avant le module, qu'évoquait pour vous ce mot quand même assez difficile à prononcer, interprofessionnalité ? Ah, moi je vois que Faustine se dédouane de la question. Luna, vous écoute.
Alors, j'avais jamais lié les deux mots inter et professionnalité ensemble. Mais quand on me l'a évoqué la première fois, je me suis fait une idée sans savoir vraiment ce qu'il y avait derrière. Et au fur et à mesure des cours et des modules...
Alors ça, c'était au fur et à mesure des cours, mais vous, la première idée, c'était quoi que ça vous a évoqué ? Vous dites, je me suis fait une idée, c'était quoi cette idée
que
vous êtes fait ?
Je me suis dit justement qu'il y a plusieurs professions qui interagissaient et collaboraient ensemble, mais je n'avais pas d'idée sur quelles professions justement collaboraient ou pas ensemble. Et j'ai pu en découvrir davantage.
Merci. Raphaël, pour vous ?
Alors, pareil, je n'avais jamais tellement relié les deux mots ensemble, mais quand on me l'a dit, c'est vrai que je me suis dit que c'est la collaboration entre les différentes professions. Et puis, des collaborations, j'en ai déjà eu avant d'avoir ce module, parce qu'en travaillant en UAPE, il y avait des dames de l'intendance qui venaient faire la cuisine, donc des professionnels qui ne venaient pas du travail social qui étaient là. Donc, c'est des choses que je pouvais imaginer déjà en entendant le mot.
Ok, et puis pendant votre stage, finalement, une fois que vous avez été sur le terrain, comment s'est passée la collaboration avec les autres professionnels? Parce que j'imagine que vous avez dû côtoyer des infirmiers, des éducateurs, des médecins, peut-être même des juristes, des médiateurs. Comment, quelle est votre expérience? Comment vous avez vécu, finalement, de devoir travailler avec différentes disciplines? Ah, ça y est, Faustine a repris la main. Faustine, on vous écoute.
Alors, il ne s'agit pas de stage, mais de mon passé professionnel. Dans la petite enfance, on travaille également dans cette mouvance d'interprofessionnalité avec du travail en réseau, avec le corps médical, les assistants sociaux, les différents intervenants. Et le but de cette façon de travailler est de mettre la personne au centre et puis... d'apporter le plus de solutions possibles, le plus de choses à la personne par rapport à ses problématiques.
Oui.
Raphaël a parlé tout à l'heure d'intendance. Et c'est vrai que dans un hôpital, il y a du personnel hospitalier. J'aimerais savoir, avec vous qui avez été patient ici, quelle est l'importance justement des autres employés de l'hôpital, le personnel de cuisine, le personnel de d'intendance. Quelle relation vous avez avec ces gens?
On a une très bonne relation.
Pas en même temps. Alors, Christine, allez-y.
Vas-y, Christine, on vous écoute.
Moi, j'ai une très bonne relation avec le personnel à Malévo. Je suis en train d'ailleurs de préparer une liste de cadeaux que je vais leur faire. Ça fait 30 ans que je viens, 30 ans qu'ils sont sympathiques. Mais par contre, avec l'interprofessionnalisme, moi, j'ai eu la chance, depuis l'âge de 15 ans, de partir sur la route avec ma guitare. J'ai fait 3 mois et demi de voyage. Ensuite, en revenant, j'ai commencé l'hôtellerie. J'ai dit non, moi, me faire épuiser comme ça, pour ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, à 23 ans, j'ai fait des cours d'informatique. Et après ça, je suis partie chez les chiffonniers de Sœur Emmanuelle.
Ouais, mais restons peut-être.
Et j'ai pu faire de la médecine avec mes deux mains, sans formation.
Oui, mais restons peut-être alors les relations dans l'hôpital avec le personnel qui n'est pas soignant.
D'accord.
Les relations dans l'hôpital avec le personnel qui n'est pas soignant. Alors, c'est bien sûr. Alors là, déjà, on parlait d'avant diagnostic de personnes qui ont des maux dont ils ne parlent pas. Là, moi, j'ai un diagnostic. J'ai une situation de personnes... inapte à faire un métier, donc à l'assurance, et les relations sont bonnes. Moi, je les remercie parce que ça fait très longtemps, j'ai 42 ans depuis le 14 novembre, nous sommes au début décembre, et ça fait depuis mes 16 ans que j'étais un peu grincheux, bon gamin, j'ai fait mes caprices, j'ai fait mes conneries, etc. Je les remercie infiniment pour leur bienveillance. Je ne suis pas amputé, ils ne m'ont rien fait de mal. On est dans le meilleur pays du monde. Ma relation avec eux, moi, d'un côté, je rumine un peu, je m'en veux pour les choses du passé, mais d'un autre côté, tout ce respect, cet amour pour la vie que j'ai, et le respect que j'ai pour eux, le recul sur ce qui s'est passé... me disant que quand même ils ont été bien bien bienveillants avec moi alors que j'étais un sacré artiste. Je les remercie infiniment et je remercie aussi tout ce qui vient de la haute école sociale parce que je suis accompagné aussi.
Et vous êtes accompagné par qui?
Accompagné par des accompagnants dans un lieu de vie.
OK. Des éducateurs sociaux plutôt.
C'est des éducateurs dans le social, oui. C'est exactement ça, Monsieur Gabriel.
Merci.
Merci, Sia.
Alors moi, la relation avec les infirmiers et tout, ça se passe très bien.
Et avec le personnel qui n'est ni infirmier ni médecin, les cuisiniers, le jardinier.
Ça se passe très bien.
Est-ce que vous avez des contacts avec eux?
Des contacts quoi, avec téléphone ou bien juste parler?
Pour parler,
vous les rencontrez
au quotidien. Si on prend l'exemple du personnel, d'ailleurs, qu'on remercie pour leur travail fait, le personnel en attendance, qui sont là tous les jours pour faire en sorte que vous ayez des espaces communs propres et aussi en lien avec les hommes d'hygiène d'une institution. Comment ça se passe la relation avec?
Franchement, la relation, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très patient. Car j'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi. Et du coup, franchement, ça se passe très bien et je le remercie pour tout ce qu'ils m'ont fait.
Vous êtes un patient.
Un très patient. Patient.
Moi, je suis une très patiente.
Tandis que Christine, elle est plutôt impatiente.
Non, Non, ce que je voulais finir de dire tout à l'heure, c'est qu'avec 20 ans de carrière de maman, j'ai acquis beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait des ateliers de bricolage pour tous les gens du quartier. Et j'aimerais mettre ces compétences à la disposition des gens, parce que j'ai passé 5 ans dans le crack quand la dernière de mes filles est partie. Mmh. Et maintenant, il y a des gens qui me considèrent comme toxicomane. Je ne suis pas une toxicomane, je suis une maman qui ne s'est pas relevée quand sa dernière est partie. Mmh. C'est ma psy qui m'a dit ça. Elle m'a dit, arrêtez de parler de toxicomanie, ce n'est pas ça. C'était une chute, mais maintenant vous êtes relevée.
Ben merci Christine. D'ailleurs, quand on parle de collaboration interprofessionnelle, pour vous qui êtes étudiant et en stage, hein, vous êtes un peu le devenir hein, de toutes ces formations. Pour vous, l'idéal, ça ressemblerait à quoi dans une collaboration interprofessionnelle ?
Que chacun se respecte et s'écoute, que chacun puisse avoir l'opportunité de s'exprimer sur ce qu'il a besoin, sur ses limites et puis sur ses envies aussi. Dans une collaboration le plus possible horizontale, c'est-à-dire pas qu'il y ait un grand chef au-dessus qui dit tout.
C'est un message personnel que vous voulez passer ou non ?
Non, du tout, non, du tout.
Je vous taquine, Raphaël. Luna, pour vous, ce serait quoi une collaboration interprofessionnelle idéale ?
Bah, pour moi, déjà, quand on accompagne un bénéficiaire, le premier objectif, c'est de mettre un cadre bienveillant. Donc, je pense que ce soit avec les bénéficiaires ou entre les professionnels, c'est quelque chose qui est important pour les deux. Voilà, que chacun puisse s'exprimer librement sans crainte d'être jugé et être écouté, surtout.
Oui, merci.
Alors, est-ce que l'interprofessionnel, est-ce que ça s'apprend ? Vous apprenez quoi dans ce module ?
Oui, parce que c'est pas inné, hein ?
Ouais. Vous apprenez quoi, finalement ?
Eh bien, je pense qu'on apprend qu'il est important de reconnaître et de valoriser les compétences de chacun. Et en ayant pour but l'accompagnement de la personne, l'accompagnement individualisé, de tous tirer à la même corde, en fait, dans un objectif défini, c'est-à-dire soutenir l'autodétermination et le bien-être de la personne accompagnée.
Est-ce qu'une journée comme aujourd'hui, ça vous aide à comprendre l'interprofessionnalité ou...
Oui, ça m'a aidé à comprendre l'interprofessionnalité. Il y a énormément de corps de métier. Comme vous nous avez expliqué précédemment, on ne s'arrête pas au titre de la personne. On valorise ses soft skills. Donc oui, ça m'a appris énormément.
Et puis on peut avoir multiples casquettes, n'est-ce pas, Gabriel ? Mais dans la formation, quelles compétences interprofessionnelles devraient être davantage développées ? Est-ce que, selon votre parcours que vous avez, est-ce qu'il y a des compétences qui devraient être davantage développées ?
Elles sont déjà pas mal développées au cours de notre formation, mais il s'agit surtout de, comme disait Luna juste avant, d'adopter une attitude bienveillante, de rester dans une atmosphère de non-jugement, et puis de ne pas se mettre au-dessus, mais au même niveau que les personnes accompagnées.
Oui, d'ailleurs, un exemple d'interprofessionnalité, c'est cette radio Pavillon Nomade. Nous avons travaillé avec des professionnels de la radio, avec des techniciens qui nous ont monté la radio, qui nous ont équipés. Julien, qui est à la régie, est animateur socioculturel.
D'ailleurs, qu'on remercie. Merci, Julien.
Jimmy Timmerman, qui parle au micro, est infirmier. Je suis assistant social. Donc, on a déjà de l'interprofessionnel ici autour. L'interprofessionnel, c'est l'envie d'aller ensemble, d'avoir un but commun et de tirer tous la même corde.
C'est vrai. D'ailleurs, j'ai deux petites questions avant, parce qu'on arrive gentiment à la fin de l'émission. Si vous devriez donner un conseil aux futurs étudiants, étudiantes qui vont suivre vos traces, lequel ce serait ?
Trouver des hobbies et des passions.
Alors, Christine nous dit trouver des hobbies et des passions. Luna ?
Alors, moi, je suis d'accord avec Christine. Trouver des choses pour se détendre et pas se focaliser que sur les études, même s'ils sont très importants.
Des choses pour se détendre, c'est lesquelles pour vous ?
Dormir.
Récupérer.
Alors, vous cherchez des choses pour dormir, c'est un lit ou c'est du somnifère ?
Non, alors somnifère, ouais. J'ai pas besoin, je dors très bien. Mais j'aime aussi dessiner, enfin plein de choses comme ça. Et puis être bien entouré et pouvoir parler si des choses vont pas.
Pour les autres ? Faustine ou Raphaël ?
Je rejoins Luna, je dirais développer ses propres compétences, soit ne pas s'oublier, parce qu'il faut être bien pour pouvoir aider les autres et les soutenir.
C'est vrai. Raphaël ?
Oser, toujours persévérer et puis pas se poser trop de questions. Si on a une intuition, il faut la suivre et puis jusqu'au bout.
Oui, et on arrive, dernière question, quel est le cliché sur vos futures professions que vous aimeriez casser? Parce que c'est vrai, on a fait un petit quiz tout à l'heure, il y avait quand même un petit peu de taquinade et autres. Est-ce qu'il y a comme ça des choses que vous aimeriez casser? Est-ce qu'il y a des clichés de vos professions ou pas?
On ne fait pas que jouer au baby-foot.
Oui, on ne fait pas que jouer au baby-foot. Luna?
On ne s'habille pas tous en désigual.
On ne s'habille pas tous en désigual.
On ne porte pas de sarouel.
On ne porte pas de sarouel. Eh ben merci, merci, merci à vous pour vos prises de parole sincères, vos regards critiques, vos anecdotes de terrain, à votre capacité à réfléchir ensemble et à la manière de mieux collaborer au service des bénéficiaires. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le travail social est un métier profondément humain où la richesse vient de la diversité, diversité des parcours, des outils, des métiers, mais aussi des personnalités, comme on a pu voir aujourd'hui, et que l'interprofessionnalité, loin d'être un concept théorique, est une réalité quotidienne, parfois exigeante, mais toujours porteuse de solutions. Nous vous souhaitons une très belle suite pour votre formation de la curiosité et de la créativité, et surtout l'envie de continuer à travailler ensemble avec l'ouverture et le respect. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour pour leurs mots, leurs émotions, leur partage. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec la fabuleuse chanson de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Merci Gabriel.
Merci tout le monde.
Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound.
Non, normalement, il y avait une cotisation de 20 francs par personne pour rentrer dans la salle.